avait commencé la semaine, il y a deux semaines, à parler sur les fondements de la foi. On avait parlé dans un premier temps de la parole de Dieu, les Écritures. On avait parlé que la parole de Dieu, c'était une parole que Dieu nous avait laissée, que l'Écriture, c'était une parole que Dieu avait couchée par écrit dans un livre en utilisant des hommes. Et ce matin, j'aimerais m'attarder sur quelque chose de passionnant, et ce sont les effets provoqués par la parole de Dieu dans nos vies. Paul dira aux Thessaloniciens de son époque qu'elle agit en vous de façon efficace uniquement parce que vous y croyez. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 3, il dit « Je me rappelle à quel point vous avez mis votre foi en pratique, à quel point votre amour vous a rendu actif et à quel point votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ est ferme. » Et j'aimerais vous indiquer ce matin quatre premiers effets que la parole de Dieu peut avoir dans notre vie. Et je pense que ce sont des choses que la parole de Dieu peut faire pour vous et pour moi ce matin. Moi, j'en parlerai pas tout de suite, je vais en parler durant le message. Alors, le premier effet qu'a produit les Écritures, c'est la foi. La foi. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Dans Romains chapitre 10, verset 17, il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de la parole de Dieu. La foi en Jésus-Christ, elle vient de la parole de Dieu. Elle ne vient pas autrement. Tout le monde a la foi dans le monde dans lequel on vit. On a la foi en toutes sortes de choses. On a la foi que mon coiffeur va bien me couper les cheveux. On a la foi que la nourriture que nos femmes nous donnent est là pour nous rassasier, pour nous fortifier. On a tous la foi en quelque chose, mais la foi qui sauve, c'est la foi en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est un passage merveilleux des Écritures que nous ne prenons pas nécessairement dans notre génération suffisamment au sérieux. Combien de gens disent « Si j'avais la foi, Dieu pourrait me guérir et il pourrait me délivrer. » Mais ils disent aussi tout de suite après « Mais je n'ai pas la foi. » Et du coup, ils se retrouvent dans ce que John Bunyan a appelé dans son livre « Le voyage du pèlerin », le bourbier du découragement. Je trouve que c'est une belle expression. Les gens étaient tellement déprimés, tellement abattus, hein, évangélistes et tout ça, et ses compagnons, tellement abattus que John Bunyan appelle ça le bourbier du découragement ou la vallée du désespoir. Et c'est un petit peu le monde dans lequel on vit à travers la crise qu'on vit. Eh bien, c'est un petit peu ce qui se passe, quoi. Alors, il y a quelqu'un hier qui est allé à une séance d'information à la CNCB. Et durant la séance, on leur a appris qu'il y avait 1000 personnes par année qui se jetaient sous les rails pour se suicider, quoi. 1000, c'est énorme, c'est presque trois personnes par jour, sans compter les gens qui se suicident à travers le métro, à travers toutes sortes d'autres moyens, quoi. On vit dans un monde qui est quand même fort déprimé, fort découragé. Et en lisant la Meuse la semaine passée, on disait que le taux de suicide avait augmenté en 2012 de 40%, quoi. Alors, je connais pas le nombre de suicides qu'il y a en Belgique, mais 40%, ça frise presque la moitié de ce qu'il y avait eu en 2011, quoi. Alors, c'est énorme. Les gens dans notre société ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Ils ont besoin de découvrir ce qui va les fortifier, ce qui va les consoler, ce qui va les réconforter. L'ex-premier ministre de la Nouvelle-Zélande, M. Hollande, pas celui de la France, mais celui de la Nouvelle-Zélande, a dit « La foi est l'antidote à toutes les souffrances. Elle fournit le parfait réconfort à chaque deuil et apaise la fournaise, de chaque tribulation. » Et seule la foi du croyant est capable de tels miracles. Pourquoi? Parce que la foi s'appuie sur les promesses de la parole de Dieu qui sont dignes de confiance. Avoir la foi, c'est être sûr de ce qu'on espère, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. C'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Et quand on est convaincu de la réalité que ce qu'on ne voit pas existe, qu'on est convaincu que c'est une réalité, que c'est réel, que c'est là, parce que c'est Dieu qui le dit, eh bien là, notre foi, elle va grandir et on va marcher en fonction de ce qu'on croit. On va vivre en fonction de ce qu'on croit. Parce que souvent, on se pose la question, pourquoi il y a des chrétiens qui vivent pas selon la foi qu'ils proclament? Souvent, c'est parce que on met en doute ou on n'a pas nécessairement l'assurance que la réalité de ce qu'on ne voit pas existe. Et pourquoi Dieu n'a pas voulu nous révéler tout? Mais s'il nous avait tout révélé ce qui nous attend dans l'avenir, ce qui nous attend dans l'éternité, on n'aurait pas eu besoin de vivre par la foi. C'est ça la foi, hein? C'est d'avoir la certitude que ce que Dieu dit, c'est la vérité, et c'est d'avoir la certitude que ce que Dieu nous révèle pas, mais qui nous révèle à travers les Écritures, eh bien, ce sont des réalités qui existent et qui est donné de voir seulement à ceux qui font partie de son royaume. Au début du règne de Louis VI, le vice-roi de Naples visitait les galères. Et pour honorer son passage, on lui donna l'autorisation de libérer un prisonnier. Mais lequel? Alors il les questionna tous un par un. Et tous se prétendirent justes, innocents, jusqu'à ce que quelqu'un lui dise au vice-roi, « Je suis un pauvre type, je paye et c'est normal. »« Misérable, dit le roi, quel malheur que tu sois avec ces braves gens, tu vas tous les contaminer. » Alors hâte-toi de sortir. Et l'homme fut gracié. La Bible nous dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Et ça, c'est le premier effet que produisent les Écritures. La foi, c'est par la foi qu'on est sauvés. C'est au moyen de la foi, c'est par la grâce de Dieu, au moyen de la foi, que nous sommes sauvés. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Et la foi, c'est quelque chose d'important. Ça fait partie d'un des premiers fondements de la vie chrétienne. Le manque de foi place des obstacles entre Dieu et nous, tandis que la foi place Dieu entre nous et les obstacles de notre chemin. À chaque fois que nous ouvrons la Bible pour la lire, la première prière que nous devrions faire, c'est une prière de reconnaissance au Seigneur. Merci Seigneur pour la grâce que tu m'accordes, jour après jour, de me permettre de te connaître, de connaître ton caractère à travers la personne de Jésus-Christ et de me faire connaître ta volonté. Le deuxième effet que produisent les Écritures, c'est celles qui nous permettent de passer par la nouvelle naissance. Jacques, chapitre 1, verset 18, il est écrit que c'est par la parole de Dieu que nous sommes nés de nouveau. Il écrit, il nous a engendrés, c'est-à-dire créés de nouveau selon sa volonté, parce qu'il le voulait, et comment? À travers la parole de vérité, c'est-à-dire la Bible, afin que nous soyons en quelque sorte au premier rang de toutes ces créatures. Pourquoi la nouvelle naissance est-elle importante? On en a parlé mercredi à l'étude biblique. Parce que si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça, c'est fondamental, c'est pour moi qu'il dit, c'est Jésus-Christ qui le dit. Il l'a dit au plus grand religieux, au plus grand docteur de la loi de son époque, à Nicodème, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Non seulement il ne peut pas entrer, mais il ne peut même pas voir le royaume de Dieu. La nouvelle naissance, c'est ce qui distingue le véritable christianisme de toutes les religions dans le monde. Il n'y a seulement qu'à travers la personne de Jésus-Christ qu'on peut naître de nouveau. Et c'est à travers sa parole que le miracle, que Dieu peut accomplir ce miracle dans nos vies. Et c'est une doctrine qui est abandonnée aujourd'hui, malheureusement, mais c'est important de prêcher, d'annoncer la nouvelle naissance. C'est une doctrine fondamentale. On peut être bon, on peut être gentil, on peut faire de beaucoup d'œuvres, mais si on n'est pas né de nouveau, tout ce qu'on fait, Paul dit, il appelle ça des lettres, il appelle ça dans 2 Corinthiens, il appelle ça des œuvres mortes. Ce sont des œuvres inutiles. Ça ne sert absolument rien. Ça ne rachète aucun péché. Il faut passer par une nouvelle naissance, et par cette nouvelle naissance-là, eh bien, Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, dès que quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, il est une nouvelle création, toutes choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous rappelle que c'est pas grâce à ce qu'on a fait, mais que c'est Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes à être réconciliés avec Dieu. Ça, c'est la mission du chrétien. Amener d'autres hommes, on a reçu un ministère de réconciliation, pas un ministère d'excommunication. Je vous rappelle de fermer vos GSM, merci. Et à partir de là, est-ce qu'il y a d'autres GSM que vous auriez oublié de fermer? Alors voilà, tout cela vient de Dieu, cette nouvelle naissance qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes à être réconciliés avec lui. Vous êtes nés de nouveau au nom de Père mortel, nous dit Pierre, mais grâce à une semence immortelle, grâce à la parole vivante et éternelle de Dieu. Nouvelle naissance, c'est capital, c'est fondamental. Quand John Wesley recevait chez lui les jeunes stagiaires envoyés prêcher, à leur retour, il leur posait toujours 2 questions. Quelqu'un s'est-il converti? 2e question, quelqu'un s'est-il fâché? Et si la réponse était négative, il leur disait qu'il ne pensait pas que le Seigneur les avait appelés à la prédication de l'Évangile et il les envoyait faire autre chose. Il disait, quand le Saint-Esprit convainc de péché, ou l'on se convertit, ou l'on se fâche. Ça, c'était la mentalité de John Wesley. Je vous ai déjà dit qu'il avait reçu une brique dans le front. Parce qu'il était surpris qu'un jour... Il ne comprenait pas qu'il n'avait pas été persécuté par l'Évangile. Il s'est mis à genoux. Il a demandé au Seigneur s'il y avait du péché dans sa vie. Il ne comprenait pas qu'il n'avait pas été persécuté. Il dit, écoute, Seigneur, ça fait partie de tes promesses. Et aujourd'hui, je n'ai pas encore été persécuté et je ne me sens pas bien, quoi. Est-ce que tu peux voir s'il n'y a pas du péché dans ma vie? Et quand il est sorti, bien, effectivement, il y en a un qui l'attendait avec une brique. Il l'a reçu. Il a reçu une brique en plein front. Il s'est mis à genoux. Il a loué le Seigneur. Il a dit, merci Seigneur, tu as répondu à notre prière. Quoi. Je suis en règle avec toi. Bon. Comme vous voyez mon visage ce matin, j'ai pas reçu de briques. Il n'y a pas personne qui semble avoir reçu des briques. On n'est pas tous des John Wesley. Il avait un certain principe de vie. Mais il était très, très exigeant envers les stagiaires qui passaient dans son église pour annoncer l'Évangile. Il disait que l'Évangile, si on n'est pas là pour flatter la chair, on est là pour crucifier la chair. Et il va arriver deux choses dans la vie des gens. Soit qu'ils vont se convertir, soit qu'ils vont se fâcher. Et c'est vrai. L'apôtre Jacques nous rappelle que la Bible, c'est un miroir. Et un miroir, vous savez, quand vous vous regardez dans un miroir, maintenant les hommes aussi, parce qu'il y a des instituts de beauté pour hommes, mais souvent, hein, on regarde, si on a une ride, si on a une patte d'oie, ben on essaye de l'effacer. Si on a un point noir, on essaye de le faire sauter. Si on a un bouton rouge, c'est la même chose. Eh bien, quand la Bible compare ça à un miroir, et pourquoi? C'est pour mieux paraître, finalement. C'est pour éviter que les gens puissent voir nos imperfections. Et quand la Bible compare à un miroir, pardon, mais c'est la même chose, c'est que le Seigneur nous permet à la lecture, à la lumière des Écritures, lorsqu'on la médite, eh bien, il nous permet de voir en nous les imperfections, quoi, les petits points noirs qui traînent, les petits boutons qui traînent, les petites pattes de doigts qui commencent à sortir. Et qu'est-ce que le Seigneur veut faire? Eh bien, le Seigneur, il veut nous purifier, il veut nous rendre parfaits en Jésus-Christ, et il veut éliminer certaines choses qui ne correspondent pas à sa parole. La nouvelle naissance, elle nous ouvre de nouveaux horizons, elle nous donne une nouvelle espérance, car Dieu met en nous un esprit nouveau, dit-il dans Ézéchiel. Elle nous donne un nouvel héritage, et ça, c'est important. Frères et sœurs, on n'est pas juste des enfants de Dieu, on ne reste pas juste à ce niveau-là, on devient aussi des héritiers, parce qu'on a cru en son nom. La Bible nous dit qu'il nous a donné le pouvoir de devenir non seulement enfants de Dieu, mais il nous donne aussi le pouvoir d'attendre des cieux une nouvelle terre. Il nous donne aussi le pouvoir d'attendre aussi un nouveau ciel. Et non seulement nous verrons ce nouveau ciel et cette nouvelle terre, mais la Bible nous dit aussi qu'on va y habiter, quoi. Et la Bible appelle ça la ville sainte. Alors, on n'attend pas que les peuples arrêtent de se battre dans l'ancienne Jérusalem, dans la vieille Jérusalem. On attend, nous, la nouvelle Jérusalem céleste, quoi. Cette nouvelle Jérusalem, elle deviendra le temple de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire, quoi. C'est extraordinaire. Hey, Moïse a dit dans Exode, Seigneur, fais-moi voir ta face, quoi. Et la Bible nous dit dans l'Ancien Testament, personne ne peut voir Dieu sans mourir. Et dans le Nouveau Testament, Dieu s'incarne en Jésus-Christ. Et Jésus dit à Philippe, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et celui qui rencontre Jésus-Christ, eh bien, passe par cette nouvelle naissance-là. Et dans cette nouvelle Jérusalem céleste, qui va descendre des cieux, qui va venir s'installer sur cette nouvelle terre, ou à l'intérieur de la nouvelle Jérusalem, eh bien, on n'aura pas besoin de lumière pour être éclairé, puisque c'est la gloire de Dieu qui va éclairer son peuple. Eh bien, on va voir Dieu face à face. Face à face. Tournez avec moi dans le psaume 100. Bon, on en a parlé aussi à l'étude biblique, ça sera une révision pour les gens. Le psaume 140. Oh, même à partir du psaume 139, verset 23. Alors, c'est le psalmiste, qu'est-ce qu'il fait ici? Il fait une prière. Il va être certain qu'il est droit devant son Dieu. Il fait une première prière. Il dit, Seigneur, sonde-moi. Sonde-moi, oh Dieu, connais mon cœur. Il dit pas, Seigneur, examine-moi. Il dit, sonde-moi. Hein? Il y a une différence entre sonder et examiner. Hein? La sonde, elle va beaucoup plus loin. Elle va souvent dans un endroit qu'on ne peut voir, quoi. Mais elle va chercher ce qui est important d'aller chercher. Et ici, pourquoi nous, on s'examine souvent, on s'examine en surface. Et quand le psalmiste dit, Seigneur, sonde mon cœur, Seigneur. Sonde mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Seigneur, moi je peux penser que je pense d'une certaine façon, je peux penser que mes pensées sont conformes à ta pensée, Seigneur, à ta parole, mais je te donne le mandat, Seigneur, je te donne le droit de m'examiner, de sonder mon cœur pour voir si mes pensées sont sincèrement conformes aux tiennes, Seigneur. Et il dit, qu'est-ce qu'il dit après? Hein? Sonde-moi, oh Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie, Seigneur, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Hein, la voie de l'éternité, c'est quoi? C'est ce chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Et au psaume 143, verset 10, « Enseigne-moi à faire ta vérité. » Frères et sœurs, c'est pas du haut de la chair qu'on enseigne aux gens uniquement à faire la vérité, la volonté du Seigneur. C'est en lisant, méditant les Écritures. C'est fondamental. C'est fondamental. J'irai pas où, mais dans la semaine pour l'unité des chrétiens, on s'est aperçu que les gens ne connaissent pas la parole. C'est fondamental. Il dit ici, « Seigneur, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, Seigneur. Et je veux pas avoir d'autre enseignement que par toi. Et l'enseignement que je veux avoir, c'est qu'elle vienne de toi, qu'elle vienne de ta parole. » Et qu'est-ce qu'il dit après? « Que ton bon esprit me conduit sur la voie droite. » Et là, ça va rentrer dans ce que je vous disais, que les justes verront Dieu face à face. Psaume 140, verset 14. « Oui, les justes célébreront ton nom. Et les hommes droits, ceux qui marchent sur cette voie droite, les hommes droits, qu'est-ce qu'il dit? Habiteront devant ta face. Habiteront devant ta face. » Sans mourir. Et vous savez pourquoi? Parce que dans la Nouvelle Jérusalem, il y aura une nouvelle création. Et on aura revêtu notre corps incorruptible. Le même corps que Jésus avait. Et on va être capable d'entrer dans la présence de Dieu comme Adam et Ève étaient dans le Jardin d'Éden. Eux, ils ont perdu le corps glorifié. Nous, on va trouver le corps qu'ils ont perdu. Et on va pouvoir rencontrer Dieu face à face. On va pouvoir habiter. C'est pas moi qui le dis, hein? Les hommes droits habiteront devant sa face, quoi. Les hommes droits, les justes, non seulement ils vont célébrer ton nom, mais ils vont aussi habiter devant ta face. Et voilà, une des prières de Moïse, « Seigneur, fais-moi voir ta face. » Bien oui, les justes, oui, les hommes droits, non seulement verront la face du Seigneur, mais habiteront devant sa face. C'est extraordinaire, vous dites pas amen à ça? C'est une belle promesse ça ce matin, hein? C'est une belle promesse. Celui qui est droit, eh bien la promesse c'est quoi? Il va habiter devant la face de l'Éternel. Chaque promesse est accompagnée d'une condition. Tu vas habiter devant la face de l'Éternel, eh bien, tu dois marcher dans les voies du Seigneur. Ce sont les hommes droits qui vont pouvoir habiter face à face avec le Seigneur. Tu veux célébrer son nom pour l'éternité? Alors, tu dois faire partie des justes. Pas des injustes, tu dois faire partie des justes. Et pour être juste, il faut passer par une nouvelle naissance. Il faut avoir été justifié, reconnu juste à travers le sacrifice de ce que Jésus a accompli sur la croix. Vous dites amen aussi à ça ce matin. C'est important, ces passages. Voilà. À partir de ce moment-là, cela signifie que la demeure de Dieu sera parmi les hommes et demeurera avec nous. Nous serons son peuple. Dieu lui-même sera avec nous et il sera notre Dieu. Il lui essuiera toute larme de nos yeux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de deuil, ni lamentation, ni douleur. Moi, j'aimerais que vous lisiez ces passages-là parce que moi, ça me travaille depuis des années. Je crie au Seigneur pour qu'il me donne la révélation, qu'il puisse me faire connaître ce mystère qui se trouve dans l'Apocalypse à la fin. Écoutez, c'est déjà la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Pourquoi il dit que le Seigneur va essuyer nos larmes si on est déjà sur la nouvelle terre et les nouveaux cieux? Est-ce que c'est parce que, quand vous lisez le jugement, c'est d'abord les injustes qui vont être envoyés dans le feu pour l'éternité? Est-ce qu'on va voir les gens qu'on a aimés? Est-ce qu'on va voir les gens qui vont être appréciés au jugement dernier et les voir partir avant nous? Est-ce que c'est ça qui va nous rendre tristes? Que Dieu va essuyer toute l'âme de nos yeux, afin qu'on puisse oublier après ceux qu'on a aimés puis qui n'ont pas voulu suivre les voies du Seigneur, je ne sais pas. Mais lisez ça, moi, ça me bouscule, ça. Pourquoi sur la nouvelle terre et les nouveaux cieux, Dieu va devoir essuyer les larmes de ses enfants, quoi? Il essuiera toute l'âme de nos yeux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de deuil, ni lamentation, ni douleur. C'est comme si, là, le jugement vient de passer. On est attristé parce qu'on y manque des gens qu'on aurait aimé voir avec nous. Et là, ils essuient nos larmes et après ça, ils disent, c'est terminé. Terminé. Là, vous allez être conduits à la Nouvelle Jérusalem céleste. Il n'y a plus de deuil, il n'y a plus de mort, il n'y a plus rien, quoi. C'est la félicité éternelle. En tout cas, moi, je cherche mes réponses, je vais les trouver parce que toutes les réponses sont dans la parole. Et je prie le Seigneur depuis quelques années pour qu'il puisse me révéler cette partie-là. Les choses anciennes auront disparu. Apocalypse 21, les versets 2 à 4. Jésus écrira sur nous le nom nouveau qu'il porte. Pour celui qui marche dans l'obéissance, il verra certaines promesses de Dieu s'accomplir dans sa vie. Ceux qui n'ont pas sali leurs vêtements, dit-il, ils marcheront avec moi habillés de blanc, car ils en sont dignes. Et pour ceux qui ont remporté la victoire, Apocalypse chapitre 3, versets 4 et 5, ils seront habillés de blanc, je n'effacerai pas leur nom du livre de vie, je déclarerai devant mon Père et devant ses anges qu'ils m'appartiennent. Amen. Hein? Appartenez au Seigneur aujourd'hui, bien, vous pouvez rendre gloire à Dieu pour cela parce que vous avez une belle promesse ici. Une belle promesse que le Seigneur nous fait. Le troisième effet que produisent les Écritures, elles vous donnent la nourriture spirituelle que vous avez besoin. C'est ce que Pierre dit dans son épître. Vous êtes né de nouveau au nom de Père mortel, mais grâce à une semence immortelle, Et quelle est cette semence incorruptible? C'est la parole vivante et permanente de Dieu. Quelle est, ainsi, c'est la semence de la parole vivante et éternelle de Dieu que nous recevons dans nos cœurs par la foi qui produit la nouvelle naissance. Amen. Il n'y a pas un homme qui peut amener quelqu'un à passer de la mort à la vie. Personne. C'est la parole de Dieu. C'est celui qui est la parole à travers son sacrifice. Celui qui reconnaît ce sacrifice-là. D'abord, qui se repent. La conviction de péché, repentance, conversion égale nouvelle naissance. Et on fait partie du royaume de Dieu. Et on est rajouté au règne que Christ aura pour l'éternité. C'est la nature de la semence qui détermine la nature de la vie qui en découle. Si vous plantez un noyau de pomme, vous n'obtiendrez pas un poirier. La parole de Dieu est immortelle et la vie qu'elle produit est immortelle. Une fois que vous êtes né de nouveau, vous avez besoin de nourriture. Et ce qui est merveilleux, c'est que la parole de Dieu fournit non seulement la nourriture appropriée pour chaque étape de votre croissance spirituelle, mais aussi des promesses faites par Dieu sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Quand vous n'êtes qu'un bébé spirituel, vous avez besoin de lait, et c'est ce que Pierre dit dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 2. « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin qu'en le buvant, vous grandissiez et soyez sauvés. » C'est pourquoi, dès que vous êtes né de nouveau, vous devriez avoir un appétit très aiguisé pour la parole de Dieu. Et beaucoup d'entre nous ce matin, j'en suis sûr, pourraient témoigner que lorsqu'ils sont nés de nouveau, la seule chose qu'ils voulaient faire, c'était de lire la parole de Dieu. Ils allaient chercher leur nourriture spirituelle dans la parole de Dieu. Nous sommes nés comme des enfants en bonne santé, dotés d'un bon appétit pour la seule chose qui pouvait réellement nous nourrir. Mais quand nous grandissons, nous avons besoin de quelque chose de plus solide, par exemple du pain. Lorsque Satan tenta Jésus dans le désert, il lui demanda de transformer les pierres en pain, et Jésus lui a répondu, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et ça, c'est extraordinaire. Écoutez, on peut le voir uniquement comme un livre sacré parmi tant d'autres, mais si on le voit comme étant la parole qui est sortie de la bouche de Dieu et que Dieu a couché par écrit à travers en utilisant certains hommes, écoutez, ça a un impact énormément différent dans nos vies, quoi. Il y a des gens aujourd'hui qui courent après l'expérience. « Seigneur, parle-moi, Seigneur, parle-moi. Seigneur, il faut que tu fasses entendre ta voix. » Le Seigneur, il dit, « Écoute, arrête de crier après moi. J'ai couché par écrit ce que j'ai à dire. Ce qui sort de ma bouche, je l'ai couché par écrit. Et ça va durer pour l'éternité. Il n'y a personne qui peut enlever un iota, ni la petite lettre de la loi. J'ai couché par écrit ce que j'avais à dire. J'ai couché par écrit ce que tu as besoin d'apprendre pour rentrer au ciel. J'ai couché par écrit ce que tu as besoin d'apprendre pour être consolé, pour être fortifié, pour être exhorté, pour être encouragé. J'ai mis par écrit, alors arrête de crier que je te révèle des choses. Je t'ai donné ma révélation. Elle est complète. Amen. C'est important. On vit dans une période, depuis les années 50, où l'expérience prime sur la raison. Avant, et c'est la même chose pour les mariages, hein, c'est pas juste dans l'église, c'est partout, quoi. Avant, on disait à une fille, marie le voisin et le garçon du voisin. Je vous dis ça parce que c'est arrivé à ma grand-mère. Mon grand-père, à un moment donné, sa femme est morte, il avait 5 filles. Quand il a eu enterré sa femme, il a dit, bûcheron. Il partait 6 mois par année, il avait 5 jeunes filles, 14, 15, 16, 17, 18 ans, 19 ans. À l'époque, on n'attendait pas tellement d'années, on les avait un derrière l'autre. Et là, il a dit à ma grand-mère qui avait 14 ans, il a dit à ses 5 filles, il les a réunies, il a dit, écoutez, vous avez 2 semaines pour vous trouver un mari, quoi. Sinon, je vous place. À l'époque, il n'y avait pas de chômage, il n'y avait pas d'aide sociale. Il a dit, moi, je dois retourner 6 mois pour aller travailler, pour faire vivre, pour vous faire vivre. Et là, ben, qu'est-ce qu'on lui a dit? Elle est allée voir, ma grand-mère est allée voir sa tante, qui a dit, écoute, le garçon du voisin, c'est un bon parti. Vous avez déjà entendu l'expression, c'est un bon parti. Mais avant, c'est parce qu'on se mariait, c'était la raison qui nous conduisait à nous marier. C'était pas l'amour, c'était pas le sentiment, c'était la raison. Alors, c'est un bon parti, ça veut dire quoi? C'est un gars qui est honnête, c'est un gars qui est travaillant, donc tu manqueras de rien, donc tu peux te marier. Et avec la raison, ben c'est la raison, quand on se mariait par la raison, il y avait beaucoup moins de divorces aussi. Et là, dans les années 50, il s'est passé autre chose. C'est que dans notre société, c'est l'expérience et les sentiments qui ont pris le dessus. Il faut absolument que tu aimes pour te marier. Et le problème, c'est que quand on se marie par amour, c'est-à-dire par les sentiments, on n'accepte pas que dans le couple, l'amour diminue. Si ça diminue, on lance des ultimatums. Et qu'est-ce qui arrive si le conjoint ne répond pas? Eh bien, souvent, c'est la séparation, souvent, c'est le divorce, parce qu'on veut toujours garder le même feu. On veut toujours garder ce qu'on a rencontré au début. Malheureusement, cette expérience, ces sentiments sont rentrés dans nos églises. D'où cette flambée d'église charismatique, très charismatique, où on fonctionne par les expériences. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis de côté ce qui, en principe, doit nettoyer, purifier notre raison, purifier notre cœur. Et aujourd'hui, eh bien, on a besoin de revenir aux Écritures. On a besoin de revenir aux Écritures parce que c'est ce que Dieu nous a donné pour connaître son caractère, pour connaître finalement la personne de Jésus-Christ. Et si vous ne mettez jamais sérieusement en pratique et à l'épreuve, ni à l'épreuve la parole de Dieu, vous ne deviendrez jamais mature et vous ne serez jamais capable de prendre plus que du lait ou mieux que du pain. Et la nourriture solide est uniquement pour ceux qui ont pratiqué, pour ceux qui se sont exercés, pour ceux qui ont mis régulièrement, pour ceux qui ont mis en pratique régulièrement avec zèle la parole dans leur vie. Ils le font parce qu'ils ont appris à faire confiance aux promesses que Dieu fait dans sa parole. Psaume chapitre 1. On va aller dans le psaume chapitre 1. On voit trois promesses rapidement. Le psaume 1, c'est deux hommes, deux voies, deux destinées. Et il dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Donc, il donne trois choses ici. Qui ne marche pas selon le conseil des méchants, c'est-à-dire qui n'écoute pas finalement ce qui est contraire, les opinions qui sont contraires à l'opinion de Dieu, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. On a vu tantôt que la voie droite, c'est celle qui mène à la vie éternelle. Ici, c'est une voie qui est tortueuse, c'est une voie qui est sinueuse, c'est une voie qui cherche à nous éloigner de cette voie qui est droite et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, ceux qui, ce sont les insensés, ce sont les athées, ce sont ceux qui renient que le Seigneur existe, que le Seigneur, on peut être sauvé, qu'il y a une vie après la mort. Et là, il dit, ce qui est important, et ça, c'est pour nous, il dit, qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qu'il la médite jour et nuit. Jour et nuit. Et il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Entre un arbre qui est planté dans le désert et un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, il y a une grande différence. Dans le désert, souvent, quand il arrive une tempête de sable, eh bien, l'arbre, il tombe, il manque de nourriture, il manque d'eau. Il n'y a presque pas de sève dans son écorce, tandis qu'un arbre qui est planté près des courants d'eau, qu'est-ce qui arrive? Bien, ses racines, elles vont tout près des ruisseaux, elles puisent ce qu'elles ont besoin pour se fortifier quand arrive la tempête. Eh bien, ces arbres-là, elles se tiennent debout. Et il compare finalement que l'homme qui médite la loi de l'Éternel jour et nuit est comme cet arbre planté près d'un cours d'eau. Et on sait qu'un arbre en bonne santé, eh bien, ça produit du fruit. Quand la saison est venue, et c'est ce qu'il nous dit ici, il donne du fruit en sa saison, et le feuillage ne se flétrit point, et tout ce qu'il fait lui réussit. Alors rapidement, si on pouvait résumer, ici ce qui est écrit, c'est écrit « Heureux l'homme », donc « heureux », c'est déjà une bénédiction en soi, c'est « béni » ou « bienheureux », Dieu est bienveillant, donc c'est « bienheureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et la promesse, c'est tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit, pas presque tout, pas à peu près tout, tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait pour glorifier le Seigneur lui réussit, parce qu'on a été recréé en Jésus-Christ pour glorifier le Seigneur. Tout ce que fait cet homme pour glorifier le Seigneur, eh bien, réussit. Ça, c'est une promesse du Seigneur. Et j'ai dit tantôt que chaque promesse est accompagnée d'une condition. Eh bien, la condition, c'est les premières, c'est qu'il ne marche pas selon le conseil des méchants, qu'il n'emprunte pas la voie des pécheurs, qu'il ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il médite la parole jour et nuit. Jour et nuit. Alors, vous pouvez prendre juste un verset. On a vu le mercredi, il y a deux semaines, que pour méditer les Écritures, pour mémoriser les Écritures, on ne peut pas mémoriser un verset à part pic-poc à travers les Écritures. On doit essayer de mémoriser 3, 4, 5, 6 versets du même passage. Et on les médite, on les mâchouille, on les ramène, on les descend, on les ramène. Et là, finalement, Dieu nous révèle pleinement, finalement, la profondeur du passage qui nous a permis de méditer, de mémoriser. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et pourtant, il y a aussi une promesse pour ceux qui font le contraire. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Quelle belle promesse pour ceux qui méditent la parole du Seigneur jour et nuit, pour ceux qui se tiennent loin des voies qui chercheraient à les égarer de la voie droite qui mène à la vie éternelle. Une deuxième promesse, c'est dans Ésaïe, chapitre 41, verset 10, rapidement. Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Jésus nous a fait une belle promesse dans Matthieu. Il nous a dit, sachez-le, je serai avec vous tous les jours et ce jusqu'à la fin du monde. Et dans l'Ancien Testament, vu que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne nous fait pas défaut non plus dans l'Ancien Testament. Il révèle à ceux qui marchent par la foi dans le Sauveur promis, dans le Sauveur à venir, et il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Ceux qui s'inquiètent, ceux qui s'énervent, ce sont eux qui ne connaissent pas Dieu en principe. Mais par manque de foi, on peut tomber aussi dans l'inquiétude. Jésus dit, hein, ne vous inquiétez de rien. À chaque jour, suffit. Sa peine. Je te fortifie, une autre promesse. Je viens à ton secours, je te soutiens. Est-ce que quelqu'un peut dire ici que Dieu lui a déjà fait défaut dans sa vie? Non. Souvent, si cette promesse-là ne se réalise pas dans nos vies, ce n'est pas que Dieu nous a fait défaut, c'est nous qui avons fait défaut à Dieu par manque de foi. On ne sait pas prier cette promesse-là. Quand nous passons par la souffrance que nous sommes appelés au service de Dieu, nous cherchons souvent à faire provision de force. Puis nous nous apercevons que cette force sur laquelle nous comptions est limitée et insuffisante. Insuffisante pour nos besoins. Alors gardons-nous cependant de nous laisser abattre, car voici une promesse qui nous assure tout ce qui est nécessaire. La force de Dieu est toute puissante et il peut nous la communiquer, il l'a promis. Et quand on accepte Jésus-Christ, on reçoit la puissance du Saint-Esprit en nous. Amen. C'est important. Il veut être la nourriture de notre âme et la santé de nos corps. Il est impossible de dire quelle énergie Dieu peut mettre dans un homme, mais quand cette puissance divine nous remplit, la faiblesse humaine n'est qu'un obstacle. Souvenons-nous des temps de travail et d'épreuves particuliers pendant lesquels nous avons reçu une force tout à fait spéciale dont nous nous étonnions nous-mêmes. Nous nous sommes trouvés calmes dans le danger, nous nous sommes résignés dans l'épreuve, patients dans la souffrance, supportant avec douceur le mépris, la contradiction. Dieu donne en effet une force inattendue pour les épreuves extraordinaires que nous avons à vivre, de telle manière que nous ne reconnaissons plus notre pauvre nature. Les lâches deviennent courageux, les simples reçoivent la sagesse, les muets reçoivent à leur même ce qu'ils doivent dire. Il est vrai que le sentiment de notre faiblesse peut nous faire défaillir, mais la promesse de Dieu nous rend la vie, dit le Seigneur. Et dans le psaume 118, verset 14, le psalmiste dit, « Seigneur, fortifie-moi donc selon ta parole. » Frères et sœurs, la parole de Dieu, c'est la pauvreté spirituelle de l'Église aujourd'hui. Bon, je ne m'éterniserai pas sur ce que j'ai dit hier au groupe des hommes. Ce n'est pas la place ça, ce matin. Mais c'est ce qu'on a résumé, en fait, hier au groupe des hommes. Après la belle méditation que notre frère nous a apportée hier, Paolo. La pauvreté spirituelle de nos Églises qui font que on est mélangé dans nos doctrines, quoi. Il y a des problèmes de doctrine. Vous savez, quand on remet la divinité de Jésus en question, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, à chaque époque de l'Église, ça a toujours démontré une faiblesse dans la doctrine. L'Église a mis la doctrine de côté pour vivre par les expériences. Et par nos sentiments, par nos émotions, c'est très difficile de rester objectif. On devient subjectif. Et ça fait comme certaines personnes qui changent d'Église à tout bout de champ et qui disent qu'ils vont là où l'Esprit les appelle, quoi. Là où l'esprit se trouve. Ça, c'est des gens qui vivent par les expériences. La seule expérience, une des seules expériences que Dieu veut qu'on vive, c'est celle de la croix, par laquelle on reçoit le pardon de nos péchés, par laquelle on reçoit la délivrance de la puissance que le péché exerçait dans nos vies. Et là, les promesses de Dieu peuvent s'accomplir dans nos vies, parce que Dieu est devenu notre Dieu. Dieu, le Créateur, est devenu notre Sauveur. Et non seulement il est devenu notre Sauveur, mais il nous promet d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le psalmiste pouvait dire au verset 14 du psaume 118, « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, parce qu'il est devenu mon salut. » Pardon. Oui, rapidement. Le quatrième effet que produisent les Écritures, c'est l'illumination mentale. Quel gros mot. Illumination mentale. Alors, le psaume 119, 105 nous dit, « Ta parole est comme une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Dans le psaume 119, 130, un verset que la plupart d'entre vous connaissez, le psalmiste parle à Dieu et il dit, la révélation, tournez dans le psaume 119, 130. On ne le lira pas aujourd'hui. On ne lira pas le psaume 119 aujourd'hui. Et moi, ça me rappelle ce passage dans le psaume, dans le verset 105, que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ça me fait penser quand j'étais dans les scouts. et qu'on devait courir dans des sentiers, dans les bois, quand on faisait nos camps d'été. Et si on n'avait pas de lampe de poche, ça arrivait qu'on tombait dans des trous, qu'on tombait dans de la vase. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas eu le temps de freiner, parce qu'on y allait par instinct, et on voyait pas nécessairement à plus de 5-6 mètres devant nous. On n'avait pas le temps d'éviter les trous et les embûches qu'il y avait devant nous. Et là, quand on avait notre lampe de poche, non seulement on courait un peu plus vite, mais on avait plus d'assurance où on devait se diriger. Et ici, je trouve que l'image est belle quand on compare la parole à une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Dieu veut vraiment nous faire courir le moins de risques possible. Il veut nous rappeler qu'il est là. Il est aussi cette lumière qui nous éclaire à travers la personne de Jésus-Christ. Et dans le psaume, verset 130, il dit « La révélation de tes paroles éclaire ». C'est-à-dire que découvrir ta parole apporte la lumière. Découvrir la parole de Dieu apporte la lumière. Je t'emmène à ça. C'est important. Elle donne de l'intelligence, ou si vous préférez, du discernement au sein, de continuer le psalmiste. Ainsi donc, l'arrivée de la parole de Dieu dans nos esprits et dans nos cœurs apporte la lumière. C'est différent de l'éducation, parce que l'éducation, c'est pas la lumière. Vous pouvez être très bien éduqué et être totalement dans les ténèbres. Comment je le sais? Ben, parce que j'y étais dans le passé. J'ai été très bien éduqué, et pourtant j'étais totalement dans les ténèbres jusqu'à ce que la lumière de la parole de Dieu vienne dans ma vie. Rappelez-vous, frères et sœurs, que l'éducation n'est pas la lumière. C'est la parole de Dieu qui est la lumière. C'est la parole de Dieu qui est l'air. Mes parents m'ont donné la meilleure éducation qu'ils pensaient me donner. Ils m'ont dit, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est correct, ça tu peux pas faire ça. Mais c'est à la lumière des Écritures que j'ai dû ajuster certains enseignements que mes parents m'ont donnés, quoi. Ils avaient des valeurs qui n'étaient pas nécessairement bibliques, des bonnes valeurs religieuses, mais qui ne correspondaient pas nécessairement toujours à 100% à la lumière que j'ai découvert dans les Écritures, à la révélation que j'ai découvert dans les Écritures. Theodore Roosevelt, l'un des premiers présidents des États-Unis, a dit un jour, « Si un homme est un voleur, il peut voler un paquet de cigarettes ou une cartouche de cigarettes. Mais si vous éduquez ce même homme, il finira par savoir comment voler un camion rempli de cartouches de cigarettes. » Frères et sœurs, gardez-vous bien en tête que l'éducation est très utile, mais ce n'est pas la lumière. En fait, certains des esprits les mieux éduqués sont parmi ceux qui vivent dans les ténèbres les plus épaisses. Ce n'est qu'en plongeant nos regards dans la parole de Dieu que nous recevons la lumière et la guérison dont nous avons besoin. Et la guérison dont nous avons besoin. On en a parlé ici hier. Pardon, au G30. Jean-Paul Kaufmann, un des anciens otages français au Liban, a dit ceci, « Dieu m'a protégé. Quand je me sentais découragé, je priais. Longtemps non pratiquant, je suis aujourd'hui imbattable sur la Bible. Sa relecture avec des yeux neufs, m'a permis de découvrir un ouvrage proprement révolutionnaire. La Bible a constitué un réconfort permanent pendant tous ces mois où j'étais pris en otage. La Bible a appuyé, nourri ma foi et m'a affermi. Ça a été quelque chose de très important. La Bible s'est révélée être également le véhicule d'un encouragement spirituel. Des histoires comme celle de Job, de Joseph, vendu par ses frères et bien d'autres, continue-t-il à dire, parlent de gens plongés dans l'adversité par leur foi en Dieu. Ils s'accrochent à l'espérance et surmontent leur tribulation. Et pourquoi on doit lire les Écritures? Parce qu'on a des exemples concrets, quoi. On a des exemples concrets. On peut lire les Écritures, on peut dire, oui, mais c'est pas possible, ça. Mais on recule dans l'Ancien Testament et la Bible nous dit que l'Ancien Testament nous a été donné à titre d'exemple pour qu'on plonge nos regards et qu'on puisse dire, écoute ce que Dieu dit dans le Nouveau. Oui, c'est arrivé dans l'Ancien. Alors, si on dit qu'un chrétien qui est malade, c'est parce qu'il a vécu dans le péché, je regrette, mais Job, il y en a qui sont tombés malades puis qui n'avaient pas nécessairement péché, quoi. On vit toujours dans un corps mortel qui n'a pas encore été racheté. Il y a l'usure. L'usure, Paul parle d'une tente, les coutures sont en train de péter de tous côtés, quoi. Et il dit qu'on est dans un corps corruptible. Tant aussi longtemps qu'on n'a pas revêtu ce corps incorruptible, tant que ce corps n'a pas été racheté, on est sujet à n'importe quoi. Et on regarde Job. On regarde le prophète Élisée. On regarde d'autres qui ont été malades dans l'Ancien Testament. Paul a dû laisser un de ses compagnons de travail qui avait été malade. Il n'a pas été capable de le guérir, Paul. Il dit, j'ai dû le laisser là. Et là, vous regardez, vous lisez, et ça vous fortifie, quoi. Vous regardez la vie de Joseph. Quand on voit un évangile qui est facile, qu'on vous dit, écoute, accepte le Seigneur Jésus, tu n'auras plus jamais de problème, plus de difficultés, tu ne seras plus jamais malade. Et puis que ça arrive, ça vous tombe dans la figure. Eh bien, là, vous avez de gros problèmes, quoi. Et comment vous pouvez faire pour réconforter et pour voir qu'on ne vous a pas prêché nécessairement l'Évangile qui sauve, l'Évangile qui libère, c'est que vous allez dans l'Ancien Testament, et là, vous regardez un gars comme Joseph, quoi. Qu'est-ce qu'a mérité Joseph pour passer par toutes les épreuves qu'il a passées, quoi? Rien. Mais il obéit à la parole. Et il y a des promesses pour ceux qui obéissent à la parole. Je n'étais pas dans le cœur de Joseph, je n'étais pas dans son cœur ce qu'il vivait. Il ne devait sûrement pas toujours avoir le sourire aux lèvres. Quand il a été accusé injustement d'avoir voulu coucher avec la femme de Potiphar, et puis qu'en tant qu'esclave, il n'y avait aucun mot à dire, je ne pense pas qu'il avait le sourire quand, finalement, parce qu'il obéit à la parole, hein, il a dit, hein, t'es pas ma femme, mais moi, tu ne m'appartiens pas, je ne te touche pas. Et bien, comme récompense, il s'en va en prison, quoi. Il s'en va pourrir en prison. En prison, je suis convaincu qu'il devait dire, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ça, quoi? Mais il y avait deux choix dans sa vie, Joseph, à ce moment-là. Hein. Pendant que son maître partait pendant des mois à l'extérieur s'enrichir, il aurait pu coucher avec sa femme. Hein. Ils auraient pu garder le secret. Hein. Ouais. Mais le jour où il s'est arrêté découvert, parce que tout finit par se savoir, ouais. Le jour où ça se serait découvert, Dieu aurait été avec Joseph. Il se serait peut-être tranché la gorge. Ouais. Mais Joseph a obéi en toutes choses à Dieu, quoi. Il craignait son Dieu. Et Dieu en prison était avec lui. Même dans le fond de sa cellule, Dieu était avec lui. Dieu lui a permis de dévoiler deux songes. Et Dieu était en train de préparer quelque chose d'extraordinaire pour Joseph. C'était d'être placé sur le trône. Le seul qui était plus haut que lui, c'était Pharaon. Ouais. Et Dieu a un plan. Nous, on vit à la seconde, on vit à la minute, on vit à l'heure. Mais Dieu avait un plan extraordinaire pour Joseph. Et frères et sœurs, pour tous ceux qui obéissent à la parole, vous allez passer par des moments difficiles. On va salir votre réputation. Oui, on va se moquer de vous, on va vous mépriser. Écoutez, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Si on le fait au maître, on va le faire au disciple. Mais il y a des promesses. Il y a des promesses pour ceux qui obéissent à la parole. Dieu est avec eux. Et les promesses que Dieu révèle dans sa parole, eh bien, elles s'appliquent dans la pratique à ceux qui obéissent à sa parole. Amen. Écoutez, on peut regarder les gens, les chrétiens qui ont servi de torches humaines, qu'on a recouverts de bitume dans les arènes de Rome au début de l'Église chrétienne. Des gens qui marchaient avec le Seigneur, quoi. Qui ont été recouverts de bitume et qu'on a allumé. Qu'on a allumé, quoi, pour amuser la foule. Et qui chantaient des louanges au Seigneur. Ils souffraient pas, quoi. Dieu les a préservés, quoi. Ils chantaient des louanges au Seigneur. Ils étaient déjà au ciel. Et on se dit, mais Seigneur, pourquoi tu as permis ça à des justes de vivre ça? Vous savez que c'est après ça qu'on a arrêté les jeux, les folies dans les arènes de Rome. Dieu utilisait ça pour sensibiliser le cœur des gens, pour montrer jusqu'à quel point ils étaient cruels, qu'ils n'avaient aucun plaisir à massacrer des gens dans les arènes, à les faire dévorer par des lions, à les faire déchiqueter en morceaux, à leur faire arracher la tête. Dieu utilisait une poignée de témoins. Et Dieu, encore aujourd'hui, se charge de témoins. Ce journaliste français, c'est ce qui l'a fortifié dans la parole quand il a passé par ces moments difficiles. Il se disait, pourquoi moi? Il plongeait son regard dans la parole, il plongeait son regard dans les saintes écritures, dans l'Ancien Testament. Et il voyait tous les anciens qui l'ont précédé dans l'Ancien Testament. Et il voyait que Dieu lui montrait des choses à travers ça. Et ça l'a fortifié. Ça l'a fortifié. Après, il a terminé avec Jésus-Christ. Ça l'a fortifié. Mes frères et sœurs, si on ne prend pas un temps pour lire la parole, pour lire les exemples que Dieu nous a donnés par rapport à ceux qui nous ont précédés, quand il va arriver une épreuve, on va s'effondrer, quoi. Et là, on va se sentir coupable. Coupable. Alors que Dieu, à travers une épreuve, la Bible est claire dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, Dieu n'envoie rien qui est au-dessus de nos forces. Et la Bible nous dit qu'il a déjà trouvé la solution pour savoir comment on va s'en sortir. Ce que Dieu veut faire, ce n'est pas de nous culpabiliser, ce n'est pas de nous condamner, ce n'est pas de nous écraser. C'est qu'à travers les épreuves, il veut nous faire grandir. Il veut nous fortifier. Et ça, on ne le saisit pas toujours. Souvent, c'est par manque de connaissance des Écritures aussi. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi? Pourquoi? Parce que je veux t'amener à développer le caractère de Jésus-Christ. Première étape déjà. Celui qui dit appartenir à Jésus doit vivre comme Jésus a vécu. Et ça, c'est le mandat que Dieu s'est donné avant de nous rappeler à lui. Ouais. Hérité du premier caractère d'Adam, les fruits de la chair. Tu passes par une nouvelle naissance, maintenant tu vas recevoir les fruits de l'esprit. Il faut les développer, ces fruits-là. Tu es colérique, C'est le premier Adam, ça. Il faut faire un échange. Salaire, maîtrise de soi. L'échanger, mais il y a travail à faire. Hein? Il y a travail à faire pour faire l'échange. Hein? Et souvent, c'est par les épreuves qu'on apprend à développer la maîtrise de soi. Souvent, on fait une case pour tout et pour rien. Ah, un peu. On va changer ça pour la patience. Ah, pour développer la patience, il faut passer par beaucoup d'épreuves, souvent. C'est pas que Dieu a de la difficulté à nous donner les fruits de l'esprit. C'est nous qui avons beaucoup de difficultés à les recevoir parce qu'on est guetté dessus, souvent. On veut garder ce vieux caractère dans lequel on se plaisait avant de rencontrer le Seigneur. Le Seigneur, il dit le vieux caractère, le premier caractère dedans, ça ne glorifie pas du tout, ça. Tu te glorifies toi dans ça. Moi, ça ne glorifie pas du tout. Alors, si t'es né de nouveau, le vieux Jacques Hugon, il doit disparaître. Et c'est Jésus-Christ qui doit commencer à transpirer. Et ça, des fois, ça peut prendre une vie. Ça peut prendre toute une vie. Dépendant de votre vécu. Amen. Alors, lisons l'Ancien Testament. Ne crachons pas sur l'Ancien Testament. Souvent, on reste dans le Nouveau. Lisons l'Ancien. Il y a des exemples merveilleux. On a un exemple de leadership extraordinaire à travers Moïse. Alors que Dieu veut se débarrasser de Moïse. Alors que Dieu veut se débarrasser du peuple d'Israël. Moïse, on voit que c'est un homme qui a été brisé par le Seigneur, qui a été formé par le Seigneur. Et il va intercéder. Il va dire, Seigneur, as-tu pensé à ta réputation? Tu penses à ta réputation, Seigneur, si tu détruis ce peuple que tu as sorti d'Égypte. Qu'est-ce que les païens vont dire? Tu les as fait sortir pour les détruire. Y as-tu pensé, Seigneur? Et quand on parle comme ça avec Dieu, là, ça veut dire qu'on a une bonne relation avec lui. Hein? Y as-tu pensé, Seigneur, ce que les païens vont dire si tu détruis ce peuple-là? Et il avait dit à Moïse, écoute, toi de là, je vais le détruire, puis je vais t'en donner un nouveau. Un nouveau. Et si Moïse n'avait pas été brisé, là, hein? Si elle avait marché dans sa chair, il aurait dit, Seigneur, vas-y, ils me font transpirer depuis que je m'occupe d'eux en Égypte. Ils ne me lâchent pas. Ils m'ont rejeté. Ils veulent retourner en Égypte. Ils trouvent qu'ils étaient mieux quand ils étaient esclaves que libérés par toi. Seigneur, vas-y. Ça, c'est le leadership d'un gars qui n'a pas été brisé par le Seigneur. Mais un gars qui est brisé par le Seigneur, c'est la réputation de Dieu qui prime. Seigneur, y as-tu pensé? Pense à ta réputation, Seigneur. Alors, pardonne. Pardonne, Seigneur. C'est un de nos problèmes dans nos églises aujourd'hui. On choisit des gens parce qu'on est mal pris. On choisit des gens en fonction de leur qualité naturelle. Non pas seulement en fonction de l'appel qu'ils ont reçu du Seigneur. On est souvent des responsables qui ont été brisés par le Seigneur. Ça fait des gens qui manquent de compassion. Et ça fait des gens qui ne sont pas capables de prier, d'intercéder pour les membres du peuple de Dieu que Dieu leur a confié. Des exemples extraordinaires. Pensez à David. Quand vous regardez la liste de tous les héros du 11e chapitre, il n'y a que Enoch dont Dieu n'a pas dévoilé le péché. Apparemment, c'est le seul à son époque qui marchait avec Dieu, qui est enlevé. C'est aussi l'enlèvement d'Enoch. L'enlèvement d'Élie, c'est fortifiant pour nous. Si Dieu était capable de le faire dans l'Ancien Testament, il va être sûrement capable de le faire dans le Nouveau avec nous. Parce qu'il est le même hier, il a la même puissance hier, aujourd'hui et éternellement. L'Ancien Testament est important qu'on le lise. On a des choses concrètes. Dieu agit avec des humains en direct. On doit aller puiser. On va aller chercher notre réconfort dans les expériences que les héros de la foi, ceux qui nous ont suivis avant, ont vécu avec Dieu. Quoi. Extraordinaire. Ouais. Amen. La Bible est d'une certaine façon comme l'échelle, et je termine, comme l'échelle de Jacob. Chaque promesse est comme un barreau de l'échelle. Et chaque fois que vous vous appropriez une nouvelle promesse, vous gravissez un barreau de plus, et au bout de compte, elle vous mènera jusqu'au ciel. C'est pourquoi ne négligez jamais votre Bible, c'est la clé de votre bien-être, la clé de votre succès en Jésus-Christ. C'est le bien le plus précieux que Dieu nous a laissé. Et gardez en mémoire, alors que nous avons tant de Bibles aujourd'hui, et que nous discutons pour savoir si nous allons utiliser telle ou telle traduction, ou si nous la voulons avec des illustrations, ou la voulons avec des notes, il y a des millions de gens dans le monde de nos jours qui n'ont jamais ouvert une seule fois une Bible. Ils n'en ont pas le choix. Il y a encore des missionnaires dans certains pays qui doivent défaire leur doublure, ils doivent mettre des feuilles de la parole de Dieu dans leur doublure de manteau, passer en contrebande ces feuilles-là et les distribuer à des chrétiens qui les apprennent par cœur, ces feuilles-là, pour les redonner à d'autres personnes qui n'ont jamais touché aux Écritures On est gâtés, on est pourris ici, hein, à Belgique. En Occident. On a le nombre de Bibles qu'on veut. On a des Bibles à 1,50. Hey. 1,50. Essayez de trouver un roman, un Harlequin à 1,50 aujourd'hui. Il n'y en a pas. 1,50. C'est des hommes qui ont à cœur, des hommes d'affaires qui ont à cœur, ils ont financé pour qu'on puisse les distribuer, ces Bibles-là. Les chrétiens en Chine qui passent 8 heures dans un champ de maïs pour attendre que les soldats passent, pour courir dans une cave de maison humide, en cachette, pour être capable d'entendre parler de la parole de Dieu, de pouvoir la lire. Ça existe encore aujourd'hui. En Corée du Nord, vous dites que vous êtes chrétien, on vous enferme tout de suite dans un institut psychiatrique. Dans d'autres pays musulmans, il y a de la dictature. On vous enferme dans des conteneurs à 40 degrés. Dans vos excréments, on vous balance la nourriture à travers vos excréments. Dans des conteneurs en métal. Dans le désert où il fait 40, 45 degrés, quoi. Parce que vous êtes chrétien. Ouais. Et la seule condition pour sortir du conteneur, c'est que tu renies Jésus-Christ. Frères et sœurs, on est gâtés en Occident, quoi. Il n'est pas dit qu'on va être gâtés encore longtemps. Il n'est pas dit. Profitons de l'occasion pour plonger nos yeux dans la parole. Profitons de l'occasion. Il y a des gens qui sont morts dans le passé pour qu'on puisse l'avoir dans notre version aujourd'hui, qu'on puisse l'avoir dans notre langue. Il y a des gens qui sont morts de cette parole-là. Ne la méprisons pas, ne la négligeons pas. C'est notre force. C'est la lumière que Dieu nous a donnée, c'est sa parole que Dieu a couchée par écrit. C'est la révélation complète de ce que Dieu avait nous révélé. Pour le reste, c'est une question de foi. Amen.